Ah oui, ah ok, en fait j'ai des abonnés qui suivaient le Twitch. C'est pour ça que je reçois plein de DM en mode. Ça a planté!
Ah, ça y est, je vois que le live est reparti.
Ah, c'est reviendu.
La régie a fait un magnifique travail, merci Prali. Du coup, ben, ce que je te propose, c'est que il y a dans le fil de questions, alors, je vais y revenir dessus. Est-ce que tu veux les lire ou est-ce qu'on te les fait pour un direct live?
Bah, je veux bien que vous me les posiez, comme ça j'ai pas besoin de me perdre dans le chat.
Allez, feu. Bah alors la première, c'est pour Bibi. Alors, c'est au début, tu as commencé avec des imitations avec une part de création directe, c'est-à-dire c'est vraiment toi qui faisais, tu avais commencé à faire tes histoires maison, etc. Et question secondaire dans la continuité, as-tu des exercices à conseiller pour s'amuser à imiter une voix et donner un peu on va dire, l'envie à d'autres personnes?
Ok, j'ai pas compris la première question. C'est quoi?
Alors, attends, je refais. En fait, est-ce que quand tu as commencé, tu as fait bon, comme tout le monde, de s'amuser avec les imitations, un peu à travailler de la voix, mais est-ce que tu as eu dès le début, en fait, l'envie immédiate de finalement d'utiliser la voix pour de suite faire une création à toi, de faire
Ouais,
directement des.
en fait, pour moi, au-delà de la performance vocale, on va dire, pour moi, la voix, ça a toujours été un moyen de raconter les choses. Ça a toujours été un outil, un support de création. D'une manière générale, ce qui peut me servir à créer et bidouiller des trucs, j'essaie justement d'utiliser pour créer et bidouiller des trucs, y compris ma voix. Et pour du coup, la deuxième question qui est s'il y a des conseils pour l'imitation, ce que je peux vous dire, c'est que bon, bah, je ne suis pas un scientifique, donc ce que je vais vous dire n'est pas factuel, c'est plutôt de l'empirique, c'est de l'observation personnelle. Mais en fait, pour moi, l'imitation, c'est avant même d'être une question de corde vocale, c'est une question d'oreille. Être capable d'entendre les subtilités d'une voix, être capable d'entendre les nuances et la décomposer, je dirais, en strates reproductibles, c'est ce qui permet de faire une voix, on va dire, de manière efficace, avoir une capacité d'écoute et de correction par l'écoute. En fait, ah, ça sonne pas comme je voudrais, je recommence jusqu'à ce que ça sonne comme je voudrais. Et au-delà de ça, il y a un truc que j'avais lu sur les imitations, et c'est un truc que je trouve assez vrai aussi. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, c'est pas tant une affaire de corde vocale qu'une affaire de langue. La langue joue énormément dans le fait de faire des voix. Typiquement, si je veux faire la voix d'Homer Simpson, en fait, je vais relever légèrement ma langue et la mettre en arrière dans ma bouche. Et en fait, la langue, quand tu fais de l'imitation, te permet de, on va dire, de déformer ta cavité buccale pour faire sonner certains sons d'une autre manière. Pareil, si je propulse ma langue un peu en avant et que je la recourbe au niveau de la cloison nasale, ça fait une voix un peu plus intellectuelle, un peu plus à la Maestro, d'il était une fois la vie. Et en fait, je ne fais quasiment aucun effort au niveau, on va dire, de la gorge, sauf si je vais aller chercher des voix qui sont un peu plus gutturales, justement, genre la voix de Rambo, ou alors la voix de Morgan Freeman. Ça, c'est des voix où on va faire appel à la gorge. Mais sinon, le gros des imitations, j'ai remarqué, c'est vraiment bouger un petit peu sa langue pour déformer sa cavité buccale, quoi. Typiquement, beaucoup de gens savent faire un petit peu Gollum ou Stitch, mais là, pareil, il faut bouger sa langue. Si pour les autres conseils, vous pouvez aller checker ma chaîne YouTube. J'ai dû faire des petits tutos sur l'imitation de manière générale. Et puis sur certaines voix, il y a des vox populi qui sont des vidéos spécifiques, quoi.
Et du coup, j'en profite, je recase une petite question. Du coup, tu penses que c'est accessible absolument à tout le monde ou il faut vraiment avoir un don?
Bah, c'est une vaste question parce que là, c'est la question du talent qui vient se poser. Et j'aime bien la phrase de Jacques Brel qui dit « Le talent, c'est avoir l'envie de faire quelque chose. » En fait, je pense que si je me démerde pas trop mal, c'est parce que ça a toujours été un jeu. J'ai toujours eu le goût de ça depuis que je suis tout petit. Et j'ai jamais eu aucun dégoût ou aucune non-envie à l'idée de m'amuser avec ma voix, à l'idée de m'amuser à créer des sons. Ça a toujours été un plaisir enfantin, même encore aujourd'hui, c'est un plaisir enfantin que j'ai à faire ça. Et quand tu regardes tous les gens qui sont doués dans différents domaines, même que ce soit la musique ou autre, souvent c'est des gens qui ont commencé jeunes et qui ont le goût de ce qu'ils font, ils sont vraiment passionnés. Et c'est sûr que si tu veux juste faire des voix rigolotes pour faire marrer tes potes de temps en temps, ce sera peut-être plus dur que quelqu'un qui fait ça depuis qu'il est gosse. Après, je pense que oui, effectivement, il y a peut-être une part de prédisposition, mais je rebondirai sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Je pense que la part de prédisposition, elle est plutôt au niveau de l'oreille. Et la capacité à entendre les subtilités dans les voix.
Merci pour ta réponse. Alors, on en profite avec une question de Nagasan qui va dans le vif du sujet. qui te dit en fait, est-ce que tu as déjà fait, c'est sa méchanceté, en gros, du lien putaclic pour faire vivre ta chaîne, tout simplement.
Ah oui, bah, bien sûr, bah, je pense que tous les youtubeurs le font. Et encore, moi, j'ai toujours été, j'ai jamais vraiment osé aller à fond là-dedans. Mais typiquement, moi, ce qui fait cliquer, ce qui faisait cliquer énormément, c'était 51 imitations en tant de minutes, tant d'imitations en machin. Et après, oui, un titre et une miniature, c'est une promesse, en fait. Et c'est une promesse qui est en concurrence avec toutes les autres promesses qu'il y a en même temps sur l'écran du mec. Donc, il y a un moment donné. C'est horrible, hein, mais tu es obligé de jouer à ce jeu-là si tu veux que les gens cliquent pour que les gens voient. Et il y a beaucoup de créateurs de contenu qui se disent, ouais, je comprends pas, j'ai fait que 10 vues, mais ma vidéo, elle est trop bien. Et effectivement, leur vidéo, des fois, elle est géniale. Quand tu vas la découvrir, quand tu cliques, tu te dis, putain, elle est super bien, sa vidéo. Et en fait, elle n'a pas fait de vues, non pas parce qu'elle n'est pas bien, elle n'a pas fait de vues parce que le mec n'a pas su retenir et attirer l'attention. Attirer et retenir l'attention, pardon. Et en fait, les réseaux sociaux ne récompensent pas le talent, ils récompensent pas la qualité du contenu, ils récompensent ta capacité à attirer et retenir l'attention. Les gens n'ont pas vu ta vidéo parce qu'ils n'ont pas cliqué dessus. Ils ne savent même pas de quoi elle parle. Ils l'ont pas trouvé nulle, ils l'ont juste pas regardé. Tu vois? Et il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ça.
Ce qui, petite parenthèse, qui du coup explique un peu le succès de TikTok et de cette
Oui, bah
compétition.
typiquement, oui, TikTok. Quand tu regardes tout l'algorithme de TikTok est basé sur le watch time. En fait, ça te balance immédiatement dans un contenu. Donc, t'as pas l'aspect titre et miniature pour convaincre, c'est est-ce que le mec est resté plus de 10 secondes ou pas? Tu vois, c'est encore plus bête. C'est bateau, hein.
Ensuite, question de Prali. Comment as-tu géré cette popularité assez soudaine au tout début?
Alors, c'est une bonne question. Alors, j'ai eu de la chance parce qu'en fait, enfin, de la chance. Je ne sais pas si c'est vraiment de la chance. J'ai toujours eu la chance de pouvoir séparer vie privée et vie publique. Parce qu'en fait, la plupart de mes potes, enfin, en tout cas, mes deux meilleurs amis, qui sont encore mes deux meilleurs amis aujourd'hui, sont pas des gros clients de YouTube, ne regardent pas ma chaîne YouTube, ont des métiers normaux. Et d'ailleurs, en fait, tout mon entourage, c'est des gens qui ont des métiers, qui ont des vies lambda de gens normaux. C'est pas des YouTubeurs, c'est pas forcément des artistes, etc. Et du coup, le fait d'être. Pas en permanence dans un bain de fame, etc. Déjà, je pense que ça m'a évité pas mal d'écueils. Après, évidemment, ça fait pas mal gonfler l'ego et ça fait super plaisir quand t'as des gens qui te reconnaissent dans la rue. Ça m'arrive encore aujourd'hui. Mais d'une manière générale, j'ai toujours eu la chance de pas avoir des gens trop relous parce que je fais un contenu qui, au final, est assez friendly, assez familial. Et vu qu'en fait, je suis sur un domaine qui est, on va dire, artistique, il n'y a pas l'aspect contestable de la chose. Ce que j'entends par là, c'est que par exemple, des mecs qui vont faire de la vulgarisation scientifique, s'ils ont eu le malheur de mal sourcer quelque chose, ou s'il y a un autre mec qui les contredit dans une autre vidéo, il y a un espèce de jeu de guéguerre d'ego qui va se mettre en place. Alors que moi, je ne fais que créer un truc, le proposer aux gens, ils aiment tant mieux, ils aiment pas tant pis. Et je pense que rien que ça met une certaine distance. Et après, au-delà de ça, il y a quand même eu. Il y a quand même eu des moments où c'était pas forcément facile parce que tu commences à te rendre compte que tu commences à avoir un poids dans une forme de parole publique, bah, à petite échelle, hein, mais avec Twitter ou des trucs comme ça, où tu te rends compte que effectivement ta parole, parce que tu as beaucoup de followers, n'est pas interprétée, n'a pas le même impact, n'a pas le même effet que si tu étais un random avec une pépé manga. Désolé pour les randoms avec des pépé manga d'ailleurs, je vous adore, hein, mais c'est un truc auquel faut faire gaffe. Après, moi, j'ai eu de la chance de quand même me taper une traversée du désert et de croître au final dans la durée. Parce que même si j'ai eu un pic à mes débuts, au final, pendant des années, j'ai toujours produit à peu près la même chose. J'ai fait ça. Ça fait 9 ans que je suis un petit peu sur YouTube et sur les réseaux sociaux et tout. Et je ne suis pas non plus passé de 0 à 1 million d'abonnés et de 0 à 1 million de vues par vidéo. En fait, c'était un épiphénomène. Je suis monté sur un buzz. Je ne suis pas dans un état de buzz permanent. Qui peut être déroutant pour beaucoup, je pense. Et après, au-delà de ça, si, y a des trucs marrants qui me sont arrivés, genre des gens qui m'ont pris en photo alors que je sortais mes poubelles, tu vois, mais ça, c'est plus de l'ordre de l'anecdote rigolote. Mais d'une manière générale, je vis assez bien le fait d'être connu, enfin, si on peut appeler ça comme ça. Ça me fait toujours plaisir quand des gens me reconnaissent. Ce qui peut être gênant, c'est quand des gens te reconnaissent, mais osent pas venir vers toi ou se comportent de manière hyper chelou parce qu'ils t'ont reconnu. Mais sinon, à part ça, si ça a eu un impact, c'est que au final, ça t'ouvre des portes de ouf. Ça te permet d'oser faire des choses que si tu n'avais pas cet aspect, j'ai des milliers de gens derrière moi, tu ne peux pas le faire. Typiquement, bah, les projets que j'ai faits où il y avait besoin de crowdfunding, si je n'avais pas des communautés, je n'aurais pas pu les faire. Et typiquement aussi, ça m'a permis d'être, comme je disais bah, durant mon petit exposé, d'être identifié, identifiable comme un mec qui se démerde pas trop mal dès qu'il y a une histoire de voix dans l'équation, tu vois. Et ça, c'est plutôt bénéfique parce qu'au final, ce que j'ai, ma chaîne YouTube, c'est comme un CV qui est validé par 500 000 personnes, on va dire. Donc ça te permet de faire des trucs. Et puis ça m'a permis aussi l'indépendance au-delà de ça parce que du coup, ça m'a permis de gagner de l'argent modestement, hein, chichement au début. Et même encore aujourd'hui, je ne gagne pas des sommes colossales, mais de pouvoir être indépendant et d'avoir une forme de liberté que n'ont pas certains de mes potes. Moi, j'ai des potes qui gagnent beaucoup plus que moi, mais ils doivent se lever à 5h du mat, prendre leur bagnole, aller bosser toute la journée, rentrer à 18h, ils sont crevés, machin, machin. Moi, j'ai un rythme de vie qui est calé sur mes passions, et ça, c'est un immense privilège que j'ai. Et je suis très reconnaissant aux gens qui me suivent pour ça.
Du coup, ça tombe bien, ça fait la transition avec la question de HK qui demande au niveau de la tranche d'âge des auditeurs, tu vois une évolution depuis ces 9 ans et j'en profite moi en même temps pour caler en même temps une autre petite question de savoir est-ce que justement au niveau de ta commu, on va dire de soit les commentaires, bah, tu ressens une bienveillance générale et que tu n'as pas trop de haters potentiels
Bah,
qui
en vrai,
te.
j'ai toujours eu énormément de chats là-dessus. J'ai jamais eu vraiment de gros haters. Bah, ça m'est arrivé une ou deux fois, tu vois, mais j'ai jamais eu des vagues de haine, de détestation. Donc, je pense que c'est lié en partie bah, ce que je disais tout à l'heure au fait que c'est un contenu qui n'a pas destination à être contesté ou à être comparé à d'autres. C'est juste une œuvre artistique, une performance qui est proposée. Et après, au-delà de ça, ma communauté est vieillissante pour le meilleur et pour le pire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un renouvellement de ouf de ma communauté. Mais d'un autre côté, il y a beaucoup de gens qui commencent à avoir, qui à l'époque me suivaient quand ils avaient genre 15 ans, 14 ans, dans ces eaux-là, et qui là sont majeurs, ont la vingtaine, etc. Il y en a beaucoup qui sont dans ce cas-là. Et en fait, entre-temps, ces gens ont grandi en même temps que moi. Et le contenu que je proposais à l'époque, en fait, eh ben, il a évolué. Et il y en a beaucoup qui trouvent beaucoup plus intéressant, qui trouvent beaucoup mieux l'aspect fiction sonore que je me suis mis à développer à fond, mon côté auteur, un peu l'effet Harry Potter, ouais, c'est un peu ça. C'est un peu l'effet Harry Potter avec la saga qui grandit en même temps que son public. Et je pense que ma chaîne YouTube a grandi un petit peu en même temps que qu'on va dire ma fanbase, qui n'est pas si énorme que ça. Je pense que ma vraie grosse base de fans solide et soudée, c'est à peu près 20 000 personnes. Mais c'est énorme, 20 000 personnes, en fait, qui te suivent un petit peu partout dans tes projets et tout. Et ces gens-là. Je pense prennent du plaisir à voir mes projets grandir, s'intéressent à ce que je fais et font preuve d'une maturité que n'ont peut-être pas les communautés d'autres youtubeurs. Et c'est des gens qui sont prêts à s'engager aussi économiquement à mes côtés. Et c'est ce qui me permet notamment de pouvoir faire Tellington. Parce que comme je le disais, 80% des utilisateurs Tellington qui ont claqué 5 euros par mois ou qui ont pris un abonnement à l'année, c'est des gens qui me suivent depuis longtemps en fait. Parce qu'ils savent ce que je fais, ils savent où je veux aller et ils voient justement que depuis 9 ans, je suis la trajectoire que j'essaie de suivre. Et que si ça tombe, le couillon en slip devant son écran, il va y arriver à faire ce qu'il a dit. C'est un peu ça, je pense.
Du coup, ben nickel, ça pareil, ça va toujours en continuité. Alors, c'est une double question. Quel livre, film ou on va dire autre élément t'ont historiquement marqué et inspiré et t'ont donné envie de créer? Et est-ce que tu as toujours eu ce don pour l'écriture ou c'est venu en fait au fil justement des lectures et potentiellement des retours de tes followers et des gens qui te suivent?
Okay. Bonne question aussi. Alors déjà, faut savoir que moi, je lis. Paradoxalement, je lis très très peu. Très honnêtement, dans ma vie, j'ai dû lire moins de 10 ou 15 livres en entier, alors que j'écris beaucoup. Et je pense, dans un mois ou deux, j'aurais écrit plus de livres que j'en ai lus. Et j'ai toujours eu une appétence, ouais, pour ça. Je pense que de base, je suis quelqu'un qui est câblé en mode hyper créatif, hyper itératif. Parce que ça vient tout seul, assez naturellement, les récits, les histoires, les arcs narratifs. J'ai une écriture qui est très pulsionnelle, instinctive. Et quand je décide d'écrire, j'écris quoi. Je pense que c'est lié aussi au fait que je fais beaucoup de théâtre d'improvisation. Ça fait des années que j'en fais. Et justement, l'improvisation, c'est bâtir une histoire avec des gens le plus vite possible, sans savoir où tu vas dès le début. Hein. C'est vraiment ça le principe du théâtre d'improvisation. Et je pense que j'applique un petit peu ces préceptes de ouais, t'as un début, mais il va falloir qu'au bout d'un moment, tu retombes sur tes pattes parce qu'il y a un public. Et ça, c'est un truc de l'impro que je pense que tu retrouves aussi beaucoup dans l'écriture. Et il y a un truc que j'ai remarqué souvent, je discute de plus en plus avec d'autres auteurs, notamment des auteurs qui collaborent de plus en plus avec moi, notamment sur Tellington, qui ont ce que j'appelle l'approche planificative, là où moi je suis dans une approche itérative. L'approche que j'appelle planificative, c'est des gens qui vont bâtir leur récit en amont, qui vont construire des arcs narratifs, ils vont limite se faire toute une fiche dans, voilà, mon histoire, l'arc 1 c'est ça, l'arc 2 c'est ça, l'arc 3 c'est ça, le début c'est ça, le climax c'est ça, le final c'est ça, machin. C'est des gens qui planifient leur récit à l'avance et après ils vont l'écrire un peu comme un élève ferait un plan quand il prépare une dissertation, un exposé. L'immensité des auteurs bossent comme ça parce que c'est souvent quelque chose qui est demandé dans l'industrie. Parce que dans l'industrie, on va te dire, bah, avant de te financer ton histoire, avant de te financer ton manuscrit, je veux savoir de quoi ça va parler. Et il y a beaucoup de gens qui sont formatés pour écrire comme ça. Et moi, en fait, j'ai l'approche plus, je dirais, itérative, dite du collier de perles. Je sais que Stephen King écrit comme ça aussi beaucoup. Il ne fait pas spécialement des plans en amont de ses récits. Et en fait, ce que je fais, c'est que j'écris la première phrase qui, in fine, donnera le premier paragraphe, qui, in fine, donnera la première page, qui, in fine, donnera le premier chapitre, etc., 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 etc. Et en fait, une idée en amène une autre. Parce qu'au final, un récit, c'est quoi? C'est juste des personnages donnés qui vivent des choses, qui affrontent des problèmes donnés dans un monde donné, dans un univers donné. Et quand tu as compris ça, en fait, c'est juste une longue succession de causes et de conséquences, une histoire bien écrite. Et au final, dès que tu as fait ton point de départ, si tu sais à peu près où tu veux aller, et encore, tu n'es même pas obligé de savoir à peu près où tu veux aller, il suffit juste de faire des enchaînements logiques et après de t'amuser en tant qu'auteur. Et là, bah, là, je pense que c'est un plaisir un peu enfantin que tu peux avoir quand tu joues au Lego ou au Playmobil, c'est de dire, eh ben là, il se passe un truc. Et après, en fait, quand tu as amené ce truc, tu n'as plus qu'à décrire, à écrire comment tes personnages vont y réagir. Et moi, j'écris énormément comme ça. C'est une approche de récit qu'on peut appeler organique, on va dire. Qui est en opposition, on va dire, à l'écriture un peu plus froide, avec les arcs narratifs, etc., qui est une très bonne méthodologie, hein, je ne dis pas le contraire, mais moi, ce n'est pas ce qui me correspond. Et ce que je trouve dommage aussi, c'est que l'écriture, on va dire, un peu la méthode traditionnelle, ça génère des récits qui sont très prévisibles. Je suppose que beaucoup d'entre vous ont déjà maté des films où, en fait, au bout de 10 minutes, tu sais exactement ce qui va se passer dans le film. Ou alors, quand il se passe un événement, tu sais très exactement c'est quoi les deux ou trois événements d'après. Parce que, justement, c'est construit selon des schémas narratifs typiques. Et en fait, moi, j'essaie de surprendre les gens par mes récits. J'essaie de me surprendre moi-même aussi. Et c'est pour ça aussi, je pense que je prends du plaisir à écrire. Parce que vu que je suis en train d'improviser, toujours en essayant de canaliser le récit pour pas le faire partir dans tous les sens, mais j'ai cet esprit enfantin, on va dire, cette exaltation de la création, même quand je suis en train d'écrire un chapitre. Et après, au-delà de ça, moi, ouais, effectivement, j'écris extrêmement vite, comme je disais tout à l'heure. Typiquement, là, comme tous les ans, je vais faire un calendrier. Je suis en train d'écrire un chapitre et demi tous les jours. Donc, quand tu regardes, en moins de 30 jours, j'ai écrit un livre complet.
J'en profite pour glisser une autre petite question qui me vient là comme ça. Justement, quand tu es en train du coup d'écrire, est-ce que tu as tes voix dans la tête qui arrivent ou du style, bah, du coup, tu es en train d'écrire et tu te dis, tiens, ça pourrait être une occasion de tester une voix encore que j'ai jamais faite ou de bah, quelque
Alors,
chose
ouais,
d'improviser.
c'est marrant. J'imagine les voix des personnages quand j'écris. J'ai leur voix dans leur tête quand ils donnent leur réplique et tout. Quand j'écris les répliques d'Andrew Bennett, qui est un personnage qui parle comme ça, bah, j'ai sa voix dans ma tête. C'est marrant. Et du coup, un autre perso qui a une voix un peu plus grave, il va répondre ça comme ça et tout. C'est vrai. En fait, alors c'est très bizarre d'écrire. Je pense que c'est le côté peut-être imitateur, on va dire, slash comédien. C'est que je rentre dans la peau de mon personnage quand j'écris ce qu'il fait ou ses répliques à lui. Et je switch d'un personnage à l'autre. Et en fait, je suis dans un ping-pong mental quand je fais le récit. C'est comme si j'explorais les possibilités en les écrivant. Tu vois? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais du coup, ouais, c'est vrai que tant que tu me dis, j'avais jamais relevé la chose, mais quand c'est un personnage, très souvent, je leur donne une voix en les écrivant.
Et ouais, parce que je digresse 2 secondes, parce que quand la question est venue, je me suis dit, du coup, ça peut être marrant, parce que du fait que tu as la voix, après, ça peut inspirer, j'imagine, tu étais parti sur un truc, et puis du coup, tu délires un petit peu, et tu te dis, ah, c'est une occasion de faire jouer les personnages d'une autre façon. Mais voilà,
Ouais, de ouf.
j'arrête à la digression.
Ouais, non, mais de ouf. Non, mais c'est vrai. Il y a des personnages qui ont des voix qui se prêtent bien à faire des grandes envolées lyriques, des grands discours, alors que d'autres ont une voix qui, on va dire, est connotée comme étant débile. Quelqu'un qui parle comme ça! Tu t'imagines pas qu'il est smart. C'est plutôt le grand Benêt, qui bosse avec le méchant, tu vois. Et du coup, ça, la voix va venir conditionner un champ lexical, un langage, etc. Enfin, en tout cas, par rapport au code qu'a imposé le dessin animé ou qu'imposent les films, tu vois. Je pense que ça joue beaucoup.
Bon, ce sera pour moi tout à l'heure, je souhaiterais une voix de Smithers. Mais
Je ne
bref.
sais pas imiter Smithers, malheureusement.
Ce sera pour la suite. Alors, on passe plus sur, on revient sur le côté un peu, on va dire, pratico-pratique, comme aiment dire les politiques. Combien de projets gères-tu en parallèle et comment en fait tu gères ton temps? Et dans la même continuité, as-tu des conseils pour peut-être d'autres personnes qui s'en lanceraient pour ne pas partir dans tous les sens et se concentrer sur les projets les plus rentables?
Alors, encore une fois, bonne question. Déjà, je tiens à préciser que je ne suis pas un exemple à suivre parce que beaucoup de gens qui sont des grands adeptes de la méthodologie se tireraient les cheveux en voyant que j'ai un côté un peu laissé aller sur pas mal d'aspects. Mais dans des journées où la glande, ce qui, je pense, c'est quelque chose d'extrêmement important quand tu es dans les métiers artistiques, le fait de rien foutre. Le fait de rien foutre prend une grande place dans mes journées. Mais par contre, quand je vais me mettre à bosser, je vais bosser comme 10 mecs. Et j'ai des moments de fulgurance, en fait. Je fonctionne par fulgurance. J'ai pas d'énergie constante. En fait, d'un coup, je vais avoir pas un eureka, mais un gros moment où là, je dis, j'écris un chapitre. Et après, je reglande. Et là, je dis, ah, je monte une vidéo. Et après, je reglande. Mais tant que je ne suis pas arrivé au bout d'un processus, qui a un début, un milieu et une fin, je ne passe pas à autre chose. Voilà. Sinon, pour faire la hiérarchie des priorités, en fait, bah, là, c'est piloté pas mal par l'entreprise. Et après, on a des rôles qui sont clairement définis. Je suis quelqu'un de très routinier aussi, ça joue énormément. Mais typiquement, bah, Kevin, donc mon associé, lui, il gère toute la partie développement de la plateforme. Moi, j'ai quand même un rôle, on va dire, de directeur de la création et, on va dire, vite fait, chef de projet, où je dis, je veux telle fonctionnalité. Je veux que tel bouton ressemble à ça. Et moi, je fais aussi un peu la partie graphique. En fait, tout ce qui est à peu près artistique, c'est moi qui le gère dans la boîte. Typiquement, les designs des nouvelles interfaces, notamment de l'interface PC, c'est tout moi qui ai designé sur Figma, en m'inspirant bien sûr des travaux de Bastille qui nous avait fait un très très bon modèle de base. Mais maintenant que j'ai appris à utiliser l'outil, bah, si on a besoin d'une interface, je vais faire le design. Et après, Kevin n'aura plus qu'à transformer en code ce que je lui ai montré. Je dis, ah, il faut que ça ressemble à ça. Ah, il faut ça. Il faut ci, il faut ça. Machin. Donc, du coup, il y a cette partie où j'interviens sur la plateforme. Ça occupe pas énormément de mon temps parce qu'en général, ça va beaucoup plus vite de faire une maquette que de développer un truc. Donc en général, une maquette, je peux me prendre une petite heure pour faire la maquette complète d'une nouvelle fonctionnalité, et Kevin va mettre une semaine à développer. Donc ça, tu vois, c'est en parallèle de ça, je vais gérer le gros de mon métier qui est ce que j'aime faire, hein, c'est créer du contenu pour la plateforme, aussi pour les réseaux sociaux, YouTube, etc. Même si de plus en plus j'ai levé le pied sur YouTube, mais là je reviens petit à petit, mais surtout dans le but de faire la promo de Tellington et de recentrer de plus en plus mon contenu sur ces choses-là. Et quoi qu'il arrive, en fait, l'astuce que je peux vous donner, parce qu'il y en a qui demandent des astuces, c'est que moi, vu que j'ai toujours créé pour un public, je sais qu'il y a le public qui attend derrière. Donc d'un côté, j'ai le réconfort de me dire que quoi qu'il arrive, quand je crée quelque chose, il y aura des milliers de personnes qui vont le voir, quoi qu'il arrive. Et t'as pas cette frustration de dire, ouais, mais de toute façon, à quoi bon, personne va le voir. Moi, je sais, j'ai cette chance-là de dire, une série audio, je sais qu'un épisode va sortir, il y a minimum 1200, 1300 personnes qui vont l'écouter. Qui, en vrai, quand tu transformes ce nombre en personnes physiques, c'est énorme. 1300 personnes, ça rentre pas dans une pièce, tu vois. voilà. Et l'autre truc, c'est justement de me dire, ouais, il y a 1300 personnes, dans le cas de certaines séries, voire il y a 50 000 personnes dans le cas de certaines vidéos qui attendent derrière toi, qui vont regarder. Donc, tu as ce devoir-là. Et tu as pris, enfin moi j'ai pris l'engagement public de dire, il y a un épisode qui sort le mercredi à 17h et il y a un épisode qui sort le vendredi à 17h. Quoi qu'il arrive, j'ai cette obligation morale, on va dire, et puis ce challenge aussi, on va dire, de dire, tel jour à telle heure, il y a une deadline, et je pense que la deadline, c'est un truc qui est important, de dire, et le truc il sort, quoi. Il est sorti, les gens attendent. Donc je pense que ça, c'est un bon moteur de pas juste créer pour soi, mais de créer pour autrui aussi, de dire, putain, il y a des gens qui attendent derrière. Et typiquement, ça se ressent aussi dans mes récits où je commence tout doucement à faire un peu de fan service en plus de produire des trucs stylés, parce que moi-même, je m'éclate à mettre du fan service. Je sais que les gens en face adorent. Voilà. Fin de la parenthèse. Et après, sinon, tu peux regarder, il y a plein de. En vrai, sur YouTube, tu as plein de mecs qui vont t'expliquer des méthodologies de travail et tout. Moi, voilà, mon fonctionnement, c'est ça. C'est l'impératif communautaire, parce qu'il y a des gens qui attendent derrière. L'impératif de planning, parce qu'il y a de la deadline. Et après, je gère mon temps comme je veux, un peu à la schlag. J'ai pas des journées hyper organisées. Si mes investisseurs m'entendaient, je me ferais défoncer là. parce que les mecs me donnent des dizaines de milliers d'euros et là ils apprennent que je passe le plus clair de mon temps à glander. C'est pas bien.
C'est le temps de la création, ils ne comprennent pas ces choses-là.
C'est ça. Après, c'est aussi lié à mon mode de vie actuel. Quand on aura les locaux, typiquement, je pense qu'on ira de plus en plus tranquillement vers un format classique des 35 heures, en fait. Tu vois. Parce que là, je vais commencer à bosser avec d'autres gens en présentiel. Là, on a ce côté asynchrone du distanciel qui fait qu'effectivement, chacun va à son rythme et tout. Il y a juste des deadlines. Mais quand, au bout d'un moment, il y aura tous les jours à 8h30, les gens arrivent dans l'entreprise. Bah, je pourrais pas être en peignoir en train de me faire un café, tu vois, c'est pas possible. Voilà, bref.
Ça sera bon pour un épisode de ça.
C'est ça.
Alors, justement, toujours pareil, pour rester dans le sujet, justement, un peu de l'activité, deux questions qui se rejoignent, celle de HK et celle de Créser. Alors, celle de HK, ouais. Les levées de fonds, quel est ton meilleur souvenir? Et on va dire celle de Écresseur, avec ton expérience, justement, quels seraient les pièges à éviter lors d'une levée de fonds?
Ah putain, bah, bof. Ah, ça c'est une question compliquée. Je vais commencer par la dernière question. Les pièges à éviter, c'est plutôt un conseil que je vais vous donner. Tant que c'est pas signé, tant que l'argent n'est pas sur votre compte, tout peut arriver et les mecs peuvent vous lâcher au dernier moment. Et ça nous est arrivé plusieurs fois. Alors que ça se passe très bien, ils sont à fond et tout. Et puis quand vient le moment de signer les papiers, ça met diplôme, ça répond pas, ça négocie. Et on a eu le cas de figure avec un investisseur avec lesquels on aurait été hyper content de bosser et tout, qui nous ont aussi lâché au dernier moment, à 2 jours de la signature finale. Et en 48 heures, on avait plus de 50 000 euros en moins, en 48 heures. Parce que le mec, finalement, j'y vais pas. Et ça arrive très souvent dans les levées de fonds. Et franchement, partez du principe que les gens vont vous... En fait, dans les levées de fonds, il vaut mieux partir du principe que les gens vont vous lâcher. Et du coup, faire hyper attention, plutôt que de dire « ouais, c'est bon, lui ». Donc ça, voilà, c'est ça les pièges à éviter. Ensuite, en autre piège à éviter, ça, c'est des erreurs de noob aussi, mais ne pas donner trop de parts aux investisseurs, par exemple. Ne pas accepter quelqu'un juste parce qu'il va apporter des ronds. Essayer de voir que ça soit une personne qui peut aussi apporter des compétences, des choses intéressantes à l'entreprise. Typiquement, moi, ce que je trouve cool, c'est que parmi nos investisseurs, comme je disais tout à l'heure, il y a un mec qui est dans le BTP, qui était dans le BTP, donc ça tombe bien, il va nous aider pour tous les travaux. Il y en a un autre qui est un studio d'animation. Et typiquement, vu que je suis dans un domaine artistique, ça peut être cool d'avoir un mec qui a littéralement 200 personnes à ses ordres et qui fait des dessins animés toute la journée et qui sait comment ça marche. Tu vois, c'est cool. Après, t'en as d'autres, ils ont littéralement juste donné un chèque parce qu'ils croient au truc et ils se barrent et ils veulent juste les dividendes à la fin, quoi. Mais voilà. Et après, ouais, faites gaffe aussi au pourcentage que vous donnez aux gens. Parce que faut pas sous-estimer la valeur de votre entreprise. Tout à l'heure, moi, je vous disais, ma boîte. Notre valo, c'est 1,5 million. Il s'avérait que ça nous a porté préjudice pas mal parce qu'aucun investisseur, enfin très peu d'investisseurs étaient d'accord sur le 1,5 million. Au final, il y en a beaucoup que ça gênait et tout. Mais vu que nous, on était des gros noobs et que, entre guillemets, les gens qui nous conseillaient nous avaient dit « si, si, c'est 1,5 million », bah maintenant, on répétait ce qu'on avait appris, un peu comme des écoliers un peu nuls. Et en fait, il s'avérait que la valeur finale qui s'est arrêtée pour l'entreprise, c'était pas 1,5 million, c'était 1 million. Et tout le monde est devenu d'accord sur le fait que « ok, Superflame Studio, ça vaut 1 million d'euros ». Donc ça veut dire, alors je vais vulgariser à mort parce que c'est pas vraiment ça, mais pour que les gens comprennent bien, si quelqu'un veut 10% de la boîte, vu qu'elle est valorisée à 1 million d'euros, ça va lui coûter 100 000 euros. Voilà, vous avez compris, parce que si tu as 10 fois 100 000 euros, tu obtiens bien 1 million, etc. Et typiquement, tu choisis quel pourcentage du capital tu libères pour faire ta levée de fonds. Et typiquement, nous, on a libéré moins de 20% de notre capital, si je dis pas de bêtises. Et en gros, typiquement, un mec qui met 50 000 euros, il a plus ou moins 5%. De la société. Et le but du jeu, c'est que toi, tu ne te retrouves jamais en dessous de 50%. Parce que si tu es en dessous de 50%, tu n'as plus le pouvoir dans ta propre entreprise, de base. Sauf si tu as mis en place des clauses qui permettent que... Mais en gros, il faut savoir que dans un conseil d'administration, les décisions sont prises au prorata de ce qu'on appelle des parts de vote. Et ces parts de vote sont représentées par les actions que possèdent les gens. Et plus quelqu'un a d'actions, plus il a de parts de vote. Et typiquement, dans une entreprise, l'immensité des décisions se prennent par rapport à la part de vote, c'est celui qui a la majorité, quoi. Typiquement, moi, quoi qu'il arrive, je vous le disais tout à l'heure, je suis ultra majoritaire dans ma société parce que moi, tout seul, moi, Geoffrey, j'ai plus de 60% de la boîte de base. Donc, j'ai plus que 50%, j'ai plus que 60%. Et en plus de ça, mon associé Kevin, lui, a un peu moins de 30%. Donc, à deux, on est une majorité écrasante face aux autres investisseurs. Donc, ils pourront jamais rien nous imposer. Voilà. Donc, ça, c'est un gros avantage. Et faites aussi gaffe aux clauses, aux conditions. que veulent essayer de poser les mecs en face. Parce que le but du jeu, quand tu es sur une levée de fonds, pour l'investisseur, c'est un, d'attaquer ta valo pour qu'au final, tu dises, ouais, t'as raison, ma boîte, elle vaut moins. Parce que si tu dis que ta boîte vaut moins, avec le même montant d'argent, il a plus de parts. Ou en mettant moins d'argent, il en a plus quand même. Tu vois. Donc ça, faut faire très attention. Et aussi, des fois, tu as des mecs qui vont avoir des conditions qui sont abusives. On a eu ce cas de figure-là, où un de nos investisseurs, qui est quand même resté après, mais je vous raconte un peu le process, qui est... Et pour le coup, il n'était pas mal intentionné et tout, c'était juste un bon businessman. Il nous a dit, moi, je suis prêt à mettre 250 000 euros dans ton entreprise, mais je veux plus de 30% de ta société, et je veux un droit de veto sur toutes les décisions en lien avec la dépense de l'argent. Parce que je mets un quart de million d'euros dans ta boîte, moi, tout seul. Et du coup, on y réfléchit longtemps, sérieusement et tout, puis on s'est dit, non, mais en fait, c'est... le mec, s'il demande, c'est abusé. Effectivement, l'argent, on en a besoin, mais ce quart de million d'euros, si on l'accepte, on le troque contre notre liberté. Du coup, on a beaucoup discuté avec le mec, on a essayé de voir s'il y avait moyen de faire autrement et tout. Il a dit non, si vous voulez 250 000 euros, c'est ça mes conditions. Et du coup, on s'est dit, mais en fait, mais si au lieu de mettre 250 000, tu mets que 50 000, est-ce que tu acceptes, par exemple, d'utiliser les mêmes conditions que les autres investisseurs qui sont beaucoup moins exigeants? Et là, il me dit, bah oui, si je mets que 50 000, je mets plus un quart de million, donc je prends un risque financier qui est moindre, et là, j'accepte des conditions plus souples. Et du coup, finalement, il a quand même signé, mais au lieu de mettre 250 000, il a mis 50 000. Mais ce mec allait mettre un quart de million dans ma boîte comme ça, mais avec des conditions hyper strictes. Et au final, on a dit non. Plus. Et c'est ce genre de décision qu'il ne faut pas hésiter à prendre. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ça? Est-ce que j'ai répondu?
Oui, parfait. Parfait, okay. Parfait. C'était juste après dans la continuité juste de HK qui te demandait du coup quel était ton meilleur souvenir du coup quand, je pense, la plus belle levée qui t'a permis, j'imagine, de...
Enfin, la plus belle levée, j'en ai fait qu'une de levée hein, de fond. Des souvenirs très chouettes, il y en a plusieurs. Il y en a certains, je ne peux pas en parler pour des questions de confidentialité, mais il y avait des investisseurs que j'admire énormément, que j'ai pu rencontrer et tout, qui finalement n'ont pas mis d'argent dans l'entreprise, mais qui ont une boîte qui est très chouette, que je respecte, qui est hyper cool. Donc ça a été un bon souvenir parce que c'est des gens que je rêvais de rencontrer quand j'étais petit. Et un autre truc aussi, c'est en fait les investisseurs actuels que j'ai toujours eu des longues discussions philosophiques avec eux, c'est des gens que j'apprécie, notamment un, celui qui est un des studios d'animation, qui investit chez nous, qui est un mec hyper méga intelligent, qui est un grand philosophe. Tu sais, c'est le genre de mec, quand tu vas bouffer avec lui au restaurant, tu vas pas parler politique, tu vas parler philosophie et ça va durer jusqu'à 3h du matin et ça va être hyper intéressant. C'est le genre de mec qui arrive à générer des discussions profondes. Tu vois, et me dire, putain, je me suis associé à un mec qui est hyper, méga, sensible, humain, smart, qui a réussi à bâtir une boîte assez fat, qui gère des équipes de 200 personnes, qui fait des dessins animés de ouf, qui passe à la télé, qui passe sur Netflix et tout. Et en fait, le gars, en plus d'être hyper intelligent, il est hyper gentil. Et le fait de me dire ces gens-là, j'ai leur respect en fait. Le fait de me dire qu'un mec que j'admire comme ça me respecte, croit en mon projet et veut que j'avance. Et c'était un des seuls investisseurs. Le mec, quand il est venu me voir, quand on s'est rencontrés au restaurant, il avait écouté toutes les séries. Et il m'en parlait. Et il me dit, ouais, tu sais que ça ferait des bons dessins animés, tes trucs. Et il me posait des questions sur l'univers et tout. Et il m'a prouvé par A plus B qu'il avait vraiment pris le temps d'écouter toutes mes histoires. Et qu'il était fan. Alors que le mec, il a un studio d'animation, je vous disais, il y a plusieurs centaines de personnes qui bossent pour lui, il a un studio en France, il y en a un au Canada, enfin c'est une grosse, grosse boîte de l'audiovisuel dans le bassin annécien, tu vois. Et le gars, ultra gentil, ultra smart, adou. Et y a pas mal de chouettes rencontres que j'ai fait dans ce process. Il y en a une autre aussi qui est... Alors lui, il investit pas vraiment dans la boîte. Enfin si, il investit du temps, il investit pas d'argent, mais il investit énormément de temps. C'est Majid, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui lui aussi est un studio d'animation, donc le mec qui a co-fondé In The Box. Lui, c'est, on va dire, c'est mon mentor entrepreneurial. C'est un gros daron kabyle de 50 piges qui est blond aux yeux bleus alors qu'il est rebeu, comme on dit. Et c'est un amour ambulant. Et le mec, depuis le début, il ne nous lâche pas, il nous aide. Il a 20 ans de plus que moi, c'est un daron. Et il se dit, vas-y, les petits jeunes, vous pouvez faire des trucs de malade. Allez-y, faites les choses. Et ce mec, sans lui, je levais pas de fonds. Sans lui, je faisais des dépressions par moment et tout. Non, c'est vraiment gentil. Et du coup, on lui a donné 5% de la boîte. Tu vois. Et encore aujourd'hui, c'est lui qui nous aide là pour les locaux et tout. On va emménager en dessous de chez lui. Et pour être honnête avec vous, il y a une bonne partie de nos investisseurs, c'est des potes à lui en fait, c'est lui qui nous a présenté en tout cas, qui nous a présenté. C'est vraiment quelqu'un qui aime faire en sorte que les choses se fassent. Et des gens comme ça, c'est très précieux. Voilà.
Comme quoi, il n'y a pas que des requins.
Non, il n'y a pas que des requins. Pas que des requins. En fait, c'est des rencontres humaines. Et au final, avec du recul, je me rends compte que c'est con, hein, mais en fait, des fois, il vaut mieux faire un prêt bancaire. C'est un peu long, un peu chiant, tu vois. Mais la procédure, elle prend 2-3 mois. C'est de l'argent que tu devras rembourser. Mais tu lâches pas ton pouvoir. Donc, t'emmerder à faire une levée de fonds si c'est pour des montants qui sont pas astronomiques. En fait, en vrai, je pense qu'une levée de fonds, c'est intéressant quand tu veux lever des dizaines de millions d'euros ou plus et que tu sais qu'une banque, elle te suivra pas. Ou pas facilement. Mais quand tu regardes, en fait, ce qu'on lève au final, un an de galère à se prendre la tête là-dessus, j'aurais pas fait les choses comme ça. Mais si je l'avais pas vécu, je ne le saurais pas, tu vois. Il y a des tas de choses que maintenant, on sait qu'il faut les faire autrement, dans plein de domaines.
Et oui, les joies de l'expérience. C'était d'ailleurs
en parlant d'expérience. T'apprends en faisant, en fait. Hein.
Une question de Prali. Quels sont les formats vidéo qui t'ont lassé avec le temps?
Presque tous ceux que j'ai arrêté de faire, au final... Les imitations, je prends toujours du plaisir à faire des petites compiles parce que je sais que ça. Déjà parce qu'il y a la dopamine de se dire je sais que ça marche. Et en plus de ça, je vais pouvoir caser des petites répliques bien senties sur certains sujets, notamment d'actualité. Les parodies de JT, ça j'ai toujours aimé en faire, je continue à en faire. J'hésite même à pourquoi pas lancer une chaîne YouTube où je fais que des parodies de JT. Genre un BFM TV où je dis que de la merde. Après, ce qui m'a lassé, c'était. J'ai eu une période où je faisais du gaming humoristique. Je jouais à Minecraft en imitant des voix d'enfants et ça s'appelait Tito en Gaming. C'était une institution sur ma chaîne YouTube à l'époque et ça m'a assez vite lassé parce que c'était devenu un format clivant. En fait, il y avait 50% de ma communauté qui adorait, qui regardait quoi qu'il arrive, qui se balançait des répliques. Et t'en avais d'autres, t'avais 50% qui disaient mais arrête mec, c'est de la merde, tu fais le gogol, c'est pas drôle, machin. Alors que les autres disaient c'est génial, c'est drôle, tu vois. Et j'ai jamais aimé faire des sujets trop, trop clivants, même si c'est ce qui fatalement s'y a sur les réseaux sociaux. Mais moi, fondamentalement, ce que j'aime, c'est dans la création originale pure, finalement. Enfin. Je sais pas si j'ai répondu à la question. Mais les canulars téléphoniques, ça, j'ai jamais vraiment aimé en faire. Je sais que ça marchait hyper bien, mais je prenais aucun plaisir à le faire. Et pourtant, j'ai tapé les millions de vues sur certains.
Ali, si jamais, tu fais un petit message, mais je pense que ça a répondu. D'ailleurs, continuité de la question de Nagasan, aurais-tu une playlist de toutes les parodies de pub que tu as fait sur Twitch pendant le confinement? Étape...
Ah, bonne question. Non, malheureusement, j'ai pas de playlist. Après, je sais que j'ai pas tout diffusé sur ma chaîne YouTube, j'en ai diffusé que 2 ou 3 sur YouTube. Il doit y avoir... Il y a genre les stylos Le Pen, qui sont des parodies des stylos Bic avec Jean-Marie Le Pen. Il doit y avoir... Qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'avais fait, putain ? J'avais fait un faux clip de prévention sur le Covid. Les pâtes Stalini. Donc, des pâtes soviétiques. Des pâtes soviétiques avec tout le savoir-faire de la mère patrie. À la fin, t'as Poutine qui fait un clin d'œil et tout, parce que c'est les meilleures pâtes qu'il a jamais mangées. Voilà, j'ai fait des petits conneries comme ça pendant le confinement. En fait, pour ceux qui ne savent pas, je faisais des petits live Twitch en petit comité. J'ai toujours eu moins de 100 personnes en live sur Twitch, moi. Et on crée from scratch, le temps d'une soirée, une petite pub de 2-3 minutes avec des images stock qu'on prenait sur Pixabay, des trucs comme ça. Après, moi, je faisais de la voix off publicitaire. Ah, des conneries comme ça. Voilà. Mais du coup, non, il n'y a pas de playlist, malheureusement. Après, je les ai remis sur mon TikTok, si jamais. Je sais que j'en ai remis beaucoup sur mon TikTok, parce que justement, c'était format court et ça se prête hyper bien à TikTok, du coup.
Justement, toujours pareil. Dans la continuité, question de Carmichael, comment naissent tes personnages principaux comme Talion, objectivement meilleur perso, entre parenthèses, par exemple, et que ce soit la personnalité, la voix et l'histoire?
Alors, les personnages naissent d'une nécessité scénaristique. La plupart du temps, en fait... Bon, avec le temps, je me suis amélioré là-dessus. Mais quand j'ai commencé à écrire, et je pense que c'est ce que font beaucoup d'auteurs, J'utilise beaucoup des personnages fonctionnels. Là, j'ai besoin d'un méchant. Là, j'ai besoin d'un policier. Là, j'ai besoin d'un ci, ça, ça. Le personnage est là pour avoir une fonction dans le récit, plus qu'en tant qu'individu construit avec un passé, un présent, un futur, on va dire. Maintenant, je travaille de plus en plus ça. Mais du coup, au début, je fais des persos assez monolithiques. Après, d'une manière générale, ce qui m'inspire pour les personnages, c'est d'une part la voix, en vrai, comme je le disais tout à l'heure, le fait de poser une voix. Ah, j'ai besoin d'un personnage qui sonne un peu comme ça. Ça va amener toute une psychologie.
Typiquement, quand je fais la voix de Talion, on imagine quelqu'un de déséquilibré.
Parce que la voix elle-même est déséquilibrée, en fait. Parce que y a une espèce d'arythmie quand il parle. C'est une voix qui est un peu au perché, qui est un peu gênante, qui monte, qui descend et tout. Et tout de suite, t'imagines un personnage un peu cringe avec une voix comme ça. Et du coup, tu charries tout l'univers. Derrière cette voix, je charrie l'imaginaire qu'elle suscite. Et je viens habiller cet imaginaire-là, tu vois. En fait, c'est le procédé inverse de l'audiovisuel. On va dire, d'habitude, tu commences par faire un chara-design. Et là, et après, tu plaques une voix dessus. Et là, je fais l'inverse. En fait, je crée d'abord une voix. Et après, on va imaginer un caractère, un personnage par-dessus la voix qui pourrait lui donner de la constance, de la matière. Et sinon, le gros de mes personnages sont inspirés de ma vie, soit de ma propre personnalité, mais en fait, sont différentes facettes de ma personnalité. Typiquement, Andrew et l'inspecteur Bloom sont des personnages qui sont assez proches de différents traits de ma personnalité. Andrew, pour le côté un peu solitaire, qui sont un peu en décalage avec les autres, avec le temps, etc. L'inspecteur Bloom, pour le côté, le mec qui essaie de faire le bien, malgré tout, qui essaie de rester juste, qui essaie de réparer les injustices, etc. Et après, il y a beaucoup de persos qui sont inspirés de certains de mes amis. En fait, il y a beaucoup de personnages dans mes histoires un peu secondaires, on va dire, qui ont littéralement le même nom de famille ou le même prénom que certains de mes potes. Typiquement, le capitaine Leblanc, pour ceux qui suivent un peu mes histoires, qui est un des policiers, on va dire un personnage secondaire de Marmottin, est inspiré d'un de mes potes qui s'appelle Mathieu Leblanc. Il y a aussi le docteur Masson, ou même le commandant Masson, parfois même, je crois, dans certains récits, qui est en fait inspiré de mon meilleur ami qui s'appelle Mathis Masson, etc. Et j'aime bien mettre des références à tout. Le vieux Fournil, qui est un des bars-restaurants dans lequel vont mes personnages assez souvent, en fait, c'est le bar-restaurant où moi-même, je vais dans mon petit village, dans la vraie vie, et c'est là-bas que j'écris mes histoires. Et typiquement, certains des personnages sont des gens qui existent dans la vraie vie, en fait, que je croise, qui ont les mêmes noms que les vrais serveurs du vrai bar dans la vraie vie, dans mon village, tu vois. Et je m'amuse vraiment à calquer soit les personnalités de gens que je connais, ma propre personnalité, ou alors m'inspirer de personnalités que j'ai pu voir dans d'autres fictions. Tel personnage, il a un côté Anthony Hopkins dans le Silence des Agneaux, pardon, tu vois, etc. Typiquement, le lettré Carmin, c'est un peu un genre de Gandalf, tu vois. En fait, j'essaie de piocher dans des archétypes que j'ai déjà vus quelque part et je les mets à ma sauce, tu vois.
Justement, c'est la continuité de la question de Carmichael qui dit, ça arrive un peu tard, mais est-ce que justement tu visualises les persos grâce aux illus et à la série quand tu écris ?
Non, d'ailleurs, quand vous faites attention à mes récits, je décris très 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 rarement physiquement mes personnages. En fait, mes personnages se définissent avant tout par leur dialogue, leur manière de parler, leur manière d'interagir avec les autres personnages et leurs actions. Au final, c'est hyper rare que je dise « Alors, tel perso, il ressemble à ci, à ça, machin, machin. » Typiquement, dans les propriétaires de portes, on a Camélia et Cornelius, qui sont un couple de vieux qui ont genre plus de 800 ans. Tout ce que les gens savent, c'est que c'est des vieux qui portent des toges et que Cornelius a une longue barbe. Point. Et après, c'est justement un truc qui est assez marrant. Quand moi, je vais voir les fanarts des gens, parce que du coup, j'ai un Discord avec pas mal de trucs qui parlent de mon univers dessus et dont un chan où les mecs mettent de la fanart, il n'y a pas une seule personne qui va illustrer un perso de la même manière. Sauf si, du coup, je l'ai déjà décrit physiquement ou si j'ai déjà, entre guillemets, imposé une illustration en mode, voilà à quoi il ressemble, parce qu'il y a une illustration qui a été produite que j'ai commandée à un illustrateur. Voilà. Mais ouais, il y a très, très, très peu de références physiques, descriptions physiques, sauf s'il y a une importance particulière. Andrew Bennett, qui est un des personnages les plus importants, c'est un des rares où je précise la manière dont il est vêtu. Andrew, il se définit par le fait qu'il est souvent en costume cravate, il a un veston vert, il a un long manteau marron et une écharpe virevoltante. souvent quand il est à Marmottin, etc. Le commissaire Tassier, pareil, hein, même si on a déjà produit des illustrations, il ne me semble pas l'avoir décrit physiquement dans mes récits. Mais en fait, la voix elle-même aussi va suggérer, au-delà du texte et du comportement, on en revient à la voix encore et toujours avec moi, la voix elle-même vient suggérer un physique.
Un perso qui parle comme ça, ça te laisse imaginer certaines typologies de morphologie.
Tu vas pas mettre un petit mec d'1m20 sur ce genre de voix, tu vois.
Si je te parle comme ça,
tu vas imaginer un grand dadais un peu gros. Qui a les yeux pas d'accord et qui est plutôt chauve même. Je pense. Parce qu'il y a la voix charrie un imaginaire. Voilà.
Bon, promis, je parlerai plus comme ça.
Tu parles comme ça, là ?
Non, parce que je fais 1m20, alors.
Ah, merde !
Non, je ne savais pas. Une question de l'outre-pout, je reconnais bien, tu vas voir cette patte de l'outre-pout. Tu es plus un forgeur de mots ou plutôt un tisseur de récits, si tu y vois une différence ?
Je suis pas sûr de saisir à 100% le sens de ce que tu dis, mais je pense un peu des deux, en fait. Un tisseur de récits, dans le sens je tire ma toile et je suis un espèce de fil qui vient un peu naturellement, si c'est ça que tu entends par là. Et un forgeur de mots, parce que je trouve qu'il est hyper important. Enfin, dans mon récit, je fais hyper attention aux mots que j'invente et à leur sonorité. En fait, pour moi, un mot, c'est surtout, on en revient, je pense, aussi à la voix, à l'oreille, des choses comme ça, un mot, c'est surtout un son. Et je ne suis pas d'accord avec les gens qui disent qu'un mot peut être forcément remplacé par un autre. Non, parce que souvent, en général, un synonyme n'a pas forcément la même sonorité. Et moi, pour moi, c'est plus important la manière dont les mots vont sonner que forcément le sens qui va y avoir derrière. Pour moi, c'est très chantant, un récit. La ponctuation joue énormément en plus du choix des mots, tu vois. Le fait de mettre très peu de virgules ou énormément, tu découpes différemment la manière dont ça va être lu, dont ça va être narré, donc ça va être compris, etc. C'est hyper important pour moi que les personnages et des noms un peu mémorables, un peu classe, un peu stylé, et en même temps un peu pas réel. J'ai pas envie que mon héros il s'appelle François Dupont, tu vois. Mon héros il s'appelle Andrew Bennett. Le commissaire il s'appelle le commissaire Tassier. C'est des noms un peu space, tu vois. Un de mes persos un peu space il s'appelle Talion. Enfin c'est con hein, mais c'est des sons, tu vois. Le couple de vieux c'est Camélia et Cornelius. Ça commence pareil, ça sonne un peu pareil. On dirait un peu des noms dans les comics, c'est ça. En fait, le nom vient donner de la matière. Je sais pas, j'ai pas de sens particulier derrière ça, mais j'ai ce besoin-là que ça sonne d'une certaine manière. Pareil, le nom de la plateforme, Tellington, c'est parce que je trouve le nom stylé que je sens que ça va bien marcher. C'est con, hein, mais j'aime bien comme sonne le nom de la plateforme et je pense que rien que ça, ça va l'aider à avancer.
Voilà. Je pense que c'est non, mais l'outre éventuellement, si tu veux faire un commentaire, mais je pense que t'as bien répondu. L'outre éventuellement.
Bah écoute, c'est ta réponse, et vu que c'est la tienne, elle est parfaite.
Oh là là, mais quel flatteur.
Un peu de placornerie ne fait jamais de mal. Une petite question de HK, et qui va, je pense, pareil, te plaire. Je sais pas si tu as déjà répondu. Non. Comment t'as convaincu ta famille que c'est le métier que tu voulais faire?
Alors pour le coup, j'ai eu énormément de chance par rapport à ça. Je sais que beaucoup de gens ont toujours eu le père ou la mère qui est sur un piédestal, qui est quelqu'un qui est bloquant, qui contrôle, qui dit non, faut pas que tu fasses ça, c'est pas pour qu'on aille dire. Moi, mes parents, c'est tout l'inverse. C'est des gens qui ont toujours fait preuve d'un immense lâcher prise, aussi bien pour moi que mon frère et ma sœur. Le leitmotiv de mes parents, ça a toujours été vous faites absolument ce que vous voulez, ne laissez jamais personne vous dire que vous ne pouvez pas faire quelque chose. Mais si possible, éviter de faire souffrir des gens. Voilà, c'est tout. Et j'ai été éduqué comme ça, pour le meilleur comme pour le pire, parce que du coup, ça crée des enfants qui ont du mal à voir les limites, parfois. Du coup, ça peut être extrêmement frustrant quand tu te les prends dans la gueule, les limites. Mais ça, du coup, je pense que ça, ce genre d'éducation, ça crée des enfants qui sont très libres d'esprit et qui savent explorer des chemins que les autres n'osent pas voir parce que leurs parents leur ont dit qu'ils n'avaient pas le droit de les regarder, ces chemins. Tu vois. Du coup, gros coup de chance. Mais après, c'est lié au fait que mes parents eux-mêmes ne voulaient pas reproduire ce que leurs propres parents leur avaient fait vivre, à savoir une éducation très stricte à l'ancienne. Comme je disais, je viens d'un milieu social qui est assez défavorisé. Mes propres parents sont issus du milieu ouvrier. Leurs parents avant eux, c'est des gros prolétaires de ouf, tu vois. Donc c'était la vie, elle est comme ci, comme pas comme ça. Le métier que tu feras, c'est ça. Avec des parents assez autoritaires, un peu violents. Enfin voilà. Donc eux, ils ont fait tout le modèle inverse. Et voilà.
Pour le fil des questions écrites, c'est terminé. C'est terminé. Pour l'instant, il n'y en a plus. Est-ce que parmi tous ceux qui sont présents là actuellement, est-ce qu'il y en a qui veulent prendre la parole et poser justement des questions vu qu'on n'est pas très nombreux ?
Ah, n'hésitez pas.
Moi, j'en profite avec une autre question. Est-ce que par rapport à ta personnalité, est-ce que tu es quelqu'un qui est plutôt historiquement qui est timide, pas du tout, et que au travers finalement de la chaîne, tu as pu et de cette diffusion, tu as pu vaincre cet aspect-là ou pas du tout?
Alors historiquement, je suis un immense timide. J'ai toujours été très, très mal à l'aise avec les autres, pas hyper sociable, toujours eu un peu de mal à me faire des potes malgré le fait que je pouvais faire des trucs rigolos et tout. Et ce qui m'a fait sortir de ça, c'est le théâtre. Et c'est pour ça que si j'étais ministre de l'Éducation nationale, je rendrais obligatoire des cours de théâtre, et en particulier de théâtre d'impro dans toutes les écoles, au moins une heure par semaine pour tous les gamins. Voire même la possibilité, pour les gamins qui le veulent, de faire ça à la place du sport ou à la place d'autres trucs. Parce que en fait, le théâtre m'a permis de comprendre qu'on joue tous un petit peu des rôles, m'a permis de me rendre compte que le rapport social, que le dialogue avec l'autre est une forme de jeu, et m'a surtout aussi permis de me rendre compte que j'avais la capacité, alors que j'étais encore tout petit, j'avais genre 13 ans, tu vois, mais j'avais cette capacité de faire rire des adultes, et faire rire des adultes aux éclats, choses dont ne sont pas toujours capables les jeunes parce que c'est pas tout à fait un humour très mature. Ben moi, j'arrivais à avoir un humour qui faisait rire petits et grands. C'est un truc que j'ai retenu de cette époque-là. J'arrivais à faire rire des adultes assez facilement. J'ai toujours réussi à être pote avec plus âgés que moi, plus facilement qu'avec des gens de mon âge. Alors, en grandissant, en vieillissant, heureusement, ce contraste un peu générationnel se diminue parce que maintenant, j'arrive à être pote avec des gens de qui ont mon âge, avec un peu plus jeune, avec beaucoup plus vieux, etc. Mais il y a eu cette période de ma vie où, quand j'étais plus jeune, je me sentais vraiment en décalage par rapport aux autres. Et c'était assez dur pour moi de faire du lien social et de devenir pote avec des gens que je trouvais objectivement pas intéressants. Et je dis ça sans aucune animosité pour eux à l'époque ou autre. C'est juste, t'es une espèce de petit automate qui est en boucle sur ces sujets-là, ces sujets-là, ces sujets-là. On a parlé ensemble pendant 2 heures, je ne tirerai plus jamais rien de toi. C'est horrible, hein, c'est hyper fataliste de parler comme ça, mais j'ai toujours eu ce problème-là de dire « Ok, cette personne est relativement peu intéressante, machin, machin. » Ce qui faisait que du coup, j'avais plutôt tendance à aller vers des gens plus âgés que moi pour aller chercher de la conversation, aller chercher de la référence, des trucs comme ça. Mais ouais, du coup, grand timide est sauvé par le théâtre, notamment le théâtre d'impro, qui en plus de ça te permet justement l'aspect impro est hyper important parce que tu ne te raccroches pas à un texte, tout est dans la spontanéité et la capacité de réagir aux situations. Et ça, c'est une leçon de vie en fait. Et le fait de pratiquer toutes les semaines maintenant, depuis plusieurs années, avec ma troupe et tout, c'est un moment assez salvateur. Le fait d'oser se mettre en situation et franchement, quand t'as vraiment compris qu'on est dans un état de jeu permanent, qu'on vit un peu dans une espèce de grande comédie humaine, et qu'en fait tu peux être qui tu veux en fait, et ça, il ne tient qu'à toi d'incarner le rôle que tu veux incarner dans la petite histoire qu'est la tienne ou dans la plus grande.
Et justement, c'était pour rebondir sur un truc que tu disais tout à l'heure par rapport à la censure, par rapport que ce soit tes personnages, tes histoires, il y aurait des choses sur lesquelles tu te censures ou tu te laisses complètement, justement, la totale marge de manœuvre et tu adaptes.
Dans mes histoires, il y a quand même une censure un peu légère, surtout ces dernières années. Parce qu'en fait, j'ai une tendance à écrire des récits qui sont assez violents, de base. J'aime bien des trucs un peu gore, un peu avec des meurtres un peu atroces, abominables, etc. Et en fait, vu que maintenant on est quand même une entreprise et qu'il y a un projet de boîte derrière, il va falloir que ça rentre de l'argent et que moi mon but c'est de faire un genre de Disney à terme, on va dire un peu un Marvel comme ça. Si je vais dans des trucs un peu trop hardcore, en tout cas avec mon univers, il pourra jamais être familial. Et moi je veux dans l'idée à terme que mes récits puissent plaire aussi bien aux petits qu'aux grands, dans l'idée. Et du coup, ça force à pas forcément se censurer, mais repenser la manière dont les choses sont dites. Mais ça, c'est ma manière à moi de voir les choses, et c'est parce que c'est cadré avec mes objectifs. Si je vous prends l'exemple de Tom Dervin, qui est un auteur qui bosse du coup sur Tellington, qui a fait notamment le prix de la justice et qui la bosse sur une prochaine œuvre, bah, typiquement, sa prochaine œuvre se passe dans un bordel. Il y a des putes et tout. Mais du coup, justement, on devra mettre un warning en début d'épisode pour dire qu'elle convient pas aux enfants et tout. Et d'ailleurs, bah, bientôt, on va mettre sur l'appli un mode kids avec des récits, avec un système qui permet de verrouiller et d'avoir que des récits qui peuvent être écoutés par un enfant. Voilà. Mais sinon, à part ça, je me censure pas trop. Justement, c'est pour ne pas avoir à me censurer que justement j'ai opté pour cette voie de l'indépendance. Voilà, l'indépendance dans éditoriale et financière, ouais.
Justement, c'est ce que j'allais dire, c'est que c'est un très bon rebond par rapport justement à ce choix-là et de pas te sentir du coup frustré ou justement censuré, devoir suivre, je sais pas, une ligne éditoriale qu'on t'imposerait. Et justement, de par les fans et on va dire ceux qui te suivent, tu n'as pas de retour de récits qui te seraient imposés ou de par les retours qui voudraient en fait t'amener dans quelque chose de nouveau et que tu ne souhaites pas. Tu vois un peu ce que je veux dire?
Tu veux dire le fait d'être guidé par les retours de la commu?
Ouais, qui t'influencerait et qui voudrait potentiellement te faire partir sur quelque chose parce que c'est peut-être...
Alors ça m'est déjà arrivé une ou deux fois, mais parce que j'ai volontairement fait ce choix-là. Vu que justement mes petits récits de Noël... C'est des enquêtes, en fait. Les gens font des théories sur qui est le coupable, qu'est-ce qui va se passer après, machin, machin. Et en fait, je suis à l'époque où je prenais pas beaucoup d'avance sur les récits, ce qui n'est plus le cas maintenant, mais je faisais exprès de lire les commentaires un peu au jour le jour. Et vu que j'avais à peine 3 ou 4 jours d'avance sur les diffusions, en termes de texte déjà écrit, ce que je faisais, c'est qu'il m'arrivait de changer mon récit si des gens avaient deviné là où je voulais aller. Et du coup, c'était mode, la théorie principale du public, c'est ça. Eh ben, allez vous faire voir, ça sera pas ça, ça va pas être ça ce qui va se passer. Et du coup, c'est marrant. Après, au-delà de ça, il y a une forme d'influence, mais je la trouve assez positive, moi, encore que. C'est vrai que ça peut dépendre des cas de figure, mais du coup, comme je disais tout à l'heure, je fais un peu plus de fanservice ces derniers temps, parce que je commence à avoir des auditeurs habitués à des personnages, à des situations, etc., et qui sont en demande de voir leur personnage chouchou apparaître à des moments, etc. Bon, un peu comme des fans de Marvel qui veulent voir à tout prix un Spider-Man se pointer à tel endroit, tu vois. Si je peux caser un personnage que le public connaît déjà et aime bien, plutôt qu'un autre random que j'ai créé de nulle part, je vais réutiliser un personnage que les gens aiment bien, juste pour qu'ils disent « Ah putain, il y a Talion dans tel récit !» Tu vois, typiquement, t'as eu des commentaires dans le chat là, de gens qui adorent le personnage de Talion, qui trouvent que c'est un de mes meilleurs personnages. Et du coup, j'essaie de l'utiliser avec parcimonie à certains endroits. Voilà. Parce que et ça, c'est un truc dont je suis très fier, même si c'est à petite échelle. Tu vas faire un multiverse? Ouais, c'est possible, hein, pourquoi pas. Même si c'est à petite échelle, il y a vraiment des gens, je jure, c'est vrai, qui sont fans de l'univers. C'est quelques centaines de personnes, mais c'est des fans hardcore. Il y a même des gens qui ont fait un Wikipédia de l'univers que j'ai créé sur fandom, là. Et ils ont référencé tous les épisodes avec toutes les références à tous les personnages. c'est truc de ouf, mais je trouve ça génial. Parce que ça veut dire que j'ai créé quelque chose qui compte pour les gens et c'est ce qui est le plus important pour moi.
t'as une petite question des secrétaires qui te demande en fait un peu d'un point de vue politique, est-ce que tu penses utiliser tes compétences pour parodier l'actualité, qu'elle soit justement politique, économique, médiatique, etc.
Ouais, bah ça, il y en a qui balancent les liens du wiki. Bah ça, je le fais un petit peu dans mes formats humoristiques. En fait, j'aime bien commenter de manière subtile l'actualité. La dernière vidéo que j'ai fait, c'est moi qui imite Vladimir Poutine, tu vois, typiquement. Je dis des trucs absurdes. En fait, moi, je fais de mon mieux pour être quand même absurde, même si je parle de politique, pour pas être en mode de, ouais, je fais la morale, machin. En fait, j'essaie de créer un contexte tellement débile que la critique qui est sous-jacente devient technique. Tu vois, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et typiquement, voilà, j'adore faire ces parodies en mode BFM TV. Et je pense que le jour où je peux, j'en ferai une chaîne YouTube à part entière. Où du coup, c'est un reportage débile. Et en fait, tu as les dépêches AFP qui défilent en dessous de l'écran. Et j'écris que de la merde. J'écris que de la merde, mais qui est vrai ou pourrait être vrai.
Ça peut donner des idées à BFM TV.
C'est ça. C'est ça. Mais ouais, voilà. Oui, excuse-moi.
Non, j'allais dire, j'en profite un petit peu à tout le monde de savoir si n'hésitez pas à prendre la parole aussi. C'est, là, j'avoue, j'avais pas trop suivi le fil de questions. Voilà, n'hésitez pas si vous souhaitez. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui souhaitent prendre la parole? Prali, peut-être.
Oui, le mec, il lance des perches, mais...
Le micro était désactivé.
Non, c'était justement, c'était avant de... Comme, là, en fait, on approche des 2 heures. Ouais, c'est à peu près, en général, le temps du... En général, le temps de comment dirais-je, du podcast. On peut en profiter, du coup, peut-être pour clôturer cette... Quelque part, donc, le livre blanc. Avec une petite question qu'on fait un peu à la mode de Thinkerview. est-ce que tu aurais... Est-ce que tu aurais des livres justement à conseiller qui t'ont, toi, pour le coup, dans les quelques-uns que tu disais, dans les 12 ou 13 que tu as pu lire, qui est particulier, c'est le mec qui rappelle.
Ouais, est-ce dans que... les peu de livres que tu as lu.
Justement, est-ce que tu en as quelques-uns, du coup, non, ou blague à part que...
Alors, ouais, alors c'est. Le premier, ça sera de la fiction, c'est. Quand j'étais petit, j'ai trouvé dans la bibliothèque de mes parents les bouquins de Christian Jacques, qui était un égyptologue, et j'ai lu toute sa saga des Ramsès, en fait, qui est une fiction pseudo-historique, où tu suis le Ramsès II de sa petite enfance à sa mort, et tu traverses toute sa vie. J'ai été vraiment embarqué par ces récits, c'est un long récit initiatique hein, de le mec, c'est le fils du pharaon, jusqu'à ce qu'à son tour, lui devienne un des plus grands pharaons qui ait jamais connu l'Égypte. Et c'est très beau parce que tu suis des étapes de sa vie, tu le vois évoluer aux côtés de certains personnages qui sont bien entendu fictifs, mais et chacun suit sa voie, en fait. C'est comme, il a un groupe de potes, lui se destine à être pharaon, puis il a un de ses potes qui va devenir un scribe, puis l'un de ses potes qui, lui, va plutôt aller au temple, etc. Et tu suis des trajectoires de ces personnages. C'est très beau et c'est un des rares ouvrages qui a réussi à me faire pleurer chialer en lisant, faut le faire quand même sur le dernier épisode, le dernier truc où alerte spoiler, il meurt hein, parce que c'est sa vie, de sa naissance à sa mort, donc c'est très émouvant. Donc ça, j'avais kiffé la saga des Ramsès. Si je dis pas de bêtises, il y a 5 ou 7 volumes. Ensuite, je peux vous conseiller des bouquins d'écriture, genre L'anatomie du scénario. Je me souviens plus du nom de l'auteur, qui est un très gros livre qui parle justement un peu de ce que je vous parlais de narration, on va dire, non linéaire, de raconter des récits de manière un peu organique. Et le mec va prendre des grands récits de grandes histoires assez connues, notamment dans le milieu du cinéma et tout. Il va dire, regardez. En fait, t'as un personnage qui va affronter telle difficulté et il va en ressortir changé parce qu'il a vécu ça, ça et ça. C'est assez intéressant. Après, c'est très théorique, mais c'est mis en lumière avec des exemples pratiques, on va dire. Donc voilà, L'anatomie du scénario. Et puis un troisième, qu'est-ce que je peux vous conseiller? La biographie d'Edward Snowden, qui est super intéressante. Voilà. Je sais plus du titre d'ailleurs, mais c'était la biographie d'Orson Welles, j'ai trouvé cool.
Mémoire vive.
Ouais, mémoire vive, tout à fait. Voilà, et puis c'est quoi? Tu m'as demandé un conseil pour les jeunes générations, c'est ça?
Attends, on laisse la question après, Ali, vas-y.
C'est ça.
il a anticipé le truc avant, bah du coup, pour conclure, un petit conseil pour les jeunes générations.
Faites des choses qui vous plaisent, et surtout, quoi qu'il arrive, qu'importe les épreuves, qu'importe les difficultés, même si ça fait mal, même si c'est dur, même si tu as envie de laisser tomber, d'abandonner, il faut toujours continuer d'avancer. Toujours continuer d'avancer. Ça, c'est là, si c'est the moral, the truc à retenir, c'est quoi qu'il arrive, quoi que vous ayez affronté, même si c'est des choses tragiques, continuez d'avancer. Il faut avancer. Que la vie, ça se passe mal quand tu t'enfermes dans une espèce de routine statique d'auto-apitoiement. Et parce que là, c'est le début de la fin. Et il faut, quand tu sens que tu es dans ce genre d'état, faut en sortir le plus vite possible et faut avancer. Voilà.
Belle conclusion.